Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue et merci de vous joindre ce soir à l'Assemblée publique virtuelle de questions-réponses qui misera sur le retour à l'école pour les parents et les familles d'enfants et de jeunes ayant des besoins médicalement complexes. Alors, je me présente, je suis Lise Bisnard, je suis une des directrices au CHIO et il me fait plaisir d'agir comme modératrice de cette séance ce soir. Je tenais à noter que cette Assemblée publique est une initiative de l'équipe santé Les enfants avant tout. Alors, les enfants avant tout, c'est un collectif composé de plus de 60 organismes, de partenaires familiaux et de jeunes ainsi que de médecins qui partagent les objectifs communs de relier les services de santé pour les enfants et les jeunes en vue de fournir une meilleure qualité de service, un accès plus rapide et des transitions plus faciles ou plus douces. Alors, encore une fois, bienvenue à cette séance et j'aimerais passer en revue avec vous quelques détails pratiques sur la gestion du temps que nous allons passer ensemble. Alors, comme vous le voyez, cette session ce soir sera uniquement audio, à l'exception de la vidéo pour notre interprète en langue des signes. Tous les participants ont été mis en sourdine. Les panélistes ne seront pas en sourdine quand ils répondront un à un aux questions posées. Cette séance sera enregistrée et sera affichée sur le site de CHIO et sera partagée avec nos partenaires du panel de ce soir. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'une période stressante pour les familles, que l'information change à un rythme rapide, même, je dirais, effréné, et qu'il peut y être difficile de s'y retrouver. Alors, nos panélistes fourniront ce soir des informations basées sur nos connaissances actuelles. On vous encourage donc à continuer d'examiner les dernières mises à jour et les renseignements de Santé publique Ottawa, des conseils scolaires et des membres de l'équipe soignante de votre enfant. Les parents et les familles ont manifesté beaucoup d'intérêt pour cette séance et nous avons reçu un grand nombre de questions. Bon nombre de questions portaient sur des thèmes semblables et certaines étaient très spécifiques aux enfants ou aux étudiants, uniques aux circonstances particulières des familles. Alors, étant donné le nombre de questions reçues, pour tenter d'être aussi inclusif que possible, nous ferons de notre mieux pour fournir des réponses complètes que nous espérons utiles et pertinentes pour de nombreuses familles. Alors, à ce titre, nous ne lirons pas chaque question, mais nous allons faire un effort d'aborder les questions clés pour que les parents ont soulevées. Alors, nous passerons les prochaines 40 à 45 minutes à répondre aux questions qui ont été soumises par vous, les parents ou les aidants. Et pendant les 15 dernières minutes, les participants peuvent taper ou écrire des questions via l'option de bavardage ou de chat sur la plateforme dont on utilise ce soir, donc le Zoom. Alors, mon rôle de modératrice exige que je veille à ce que nous respections le temps accordé. Il y a plusieurs questions à couvrir, donc je vais de temps en temps de faire un petit retour sur le temps. Mais sans tarder, passons d'abord à nos questions. Alors, le premier terme abordé, le thème abordé, est celui qui porte sur des renseignements généraux de la COVID-19. Donc, la transmission, le test, le vaccin. Alors, la première question qui nous est posée est comment la COVID se transmet-elle? Et je demanderai au docteur Nisha Thampi du CHIO de bien y répondre. Alors, à vous, docteur Thampi.
Merci beaucoup et bonsoir à tous. C'est important de se rappeler que la COVID-19 est une infection qui se transmet surtout par les gouttelets respiratoires. Donc, le virus se retrouve dans notre gorge et ça peut être expulsé soit avec la toux, en éternuant ou quand on parle ou chante ou crie. Et ce gouttelette-là, avec le virus, peut se déposer sur le nez ou dans la gorge de la personne qui se trouve à moins de 2 mètres de nous.
Merci beaucoup. Alors, je passe à la deuxième question qui a plusieurs composantes. Alors, permettez-moi de faire un retour sur les différentes composantes et ensuite, je vais demander à Nathalie Lair de Santé publique Ottawa d'y répondre. Alors, la question porte sur quelles sont les options pour faire tester mon enfant qui a des besoins médicaux complexes pour la COVID-19? Où et comment peut-il se faire tester? Donc, tous les enfants ont besoin médicaux complexes. Faut-il que les contacts avec les gens qui sont dans le même foyer qui ne manifestent pas de symptômes se fassent tester si un enfant présente les symptômes de la COVID? Alors, à toi, Nathalie.
Bonsoir à tous. Donc, je suis Nathalie, puis j'aimerais débuter en vous remerciant d'avoir inclus Santé publique Ottawa ce soir à cet événement si important. Donc, je suis coordinatrice pour l'équipe de soutien aux écoles pour la COVID-19, et puis j'ai travaillé à TUI pendant 10 ans. Donc, juste pour une petite introduction. Donc, je vais répondre à la question en section comme elle a été présentée. Donc, pour la première partie, ça, c'était pour savoir comment faire tester l'enfant et où. Donc, nous savons que c'est les parents qui connaissent leur enfant le mieux et c'est eux qui savent qu'est-ce qu'ils peuvent tolérer. Nous avisons que si l'enfant a des symptômes, il peut se présenter à l'urgence de TUI pour recevoir une évaluation ainsi qu'un dépistage pour le COVID-19. Quand les enfants ont besoin des soins médicaux si complexes, parfois les changements sont si subtils qui ont vraiment besoin des experts qui se présentent à TUI. Par contre, si l'enfant est sans symptômes et vous croyez qu'il ou elle est capable de faire son dépistage à une clinique de soins de COVID, vous pouvez vous présenter à un des sites, soit à Brewer, à Heron ou à Moody. Puis toute cette information-là se trouve sur notre site web. Pour la deuxième partie de la question, en ce qui a tous les gens qui vivent dans le même foyer, donc, notre recommandation, c'est de ne pas faire le dépistage pour les enfants ou les membres de la famille qui vivent dans le même foyer s'ils sont asymptomatiques. Cependant, il serait important pour tous les membres de cette famille ou foyer de rester en isolement pendant qu'on attend les résultats du dépistage. Lorsqu'on reçoit un résultat négatif, l'isolement est fini. Et puis, notre but principal, c'est toujours de faire le dépistage pour la personne qui se présente avec des symptômes. Par la suite, on pourrait réagir en conséquence et là, décider qui d'autre aurait besoin de se faire tester. Merci.
Merci, Nathalie. La prochaine question est aussi pour vous. Alors, Nathalie, qui sera considéré prioritaire pour le vaccin contre la COVID-19?
Donc, malheureusement, nous n'avons pas de nouvelles informations au sujet du vaccin contre le COVID-19. On n'a pas eu de nouvelles. Par contre, une fois que le vaccin est prêt, c'est les directives viendront du gouvernement provincial et fédéral. Nous allons suivre leurs recommandations, comme on le fait pour tous les autres vaccins que les enfants reçoivent présentement dans le calendrier des vaccins.
Merci, Nathalie. Alors, la prochaine série de questions portera sur les conseils médicaux pour les enfants aux besoins médicaux complexes. Alors, la question, qui sont les enfants aux besoins médicaux complexes? Comment décider si je peux envoyer à l'école mon enfant aux besoins médicaux complexes? Alors, je demanderai à Yara Saikali, qui est une de nos partenaires de famille, et au Dr. Toby Hodson du CHIO d'y répondre. Yara?
Oui, bonsoir, vous m'entendez bien?
Oui, on vous entend.
Alors, bonsoir, merci à tout le monde d'être là, merci aux professionnels et aux parents. Pour la définition d'un enfant complexe, je crois que le docteur pourrait répondre à la prochaine question. Je peux vous parler un peu de ma fille. Donc, ma fille a des besoins très complexes, elle se déplace en fauteuil roulant. Elle a besoin d'appui dans tous les aspects de la vie quotidienne. Elle nécessite des soins 24 heures sur 24. Elle est suivie par Complex Care et par la maison Roger Nilsson. Et elle fréquente une classe distincte du CECCE. Donc, je dois commencer à dire en tant que parent qu'en ce moment, ce sont des moments très difficiles. On a déjà beaucoup de défis au quotidien, puis en plus de ça, on ajoute tout ce qui se passe avec la COVID. On reçoit beaucoup d'informations des médias, on est bombardé constamment. Je dois dire que c'est important de rechercher et de lire les bonnes sources parce qu'il y a beaucoup d'informations et de pas tout lire ce qu'on voit. Donc, dans mon cas, à moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un peu de recul quand j'ai fait la décision de renvoyer ma fille à l'école. Et je me suis mis moins de pression. Je me suis dit, mais on fait de notre mieux avec les informations qu'on a. C'est sûr que la décision, c'est un choix personnel et il y a beaucoup de circonstances et de choses qui affectent notre décision. Personnellement, moi, j'ai choisi le risque, j'ai choisi de vivre avec le risque. Donc, j'ai décidé de renvoyer ma fille avec l'école, à l'école. J'ai décidé d'utiliser mon côté un peu plus rationnel, de regarder les faits et ce que je sais. Donc, ce que je sais, c'est que ma fille, elle adore l'école. Elle cherche la compagnie des gens. Elle aime voir ses amis. Puis, elle aime apprendre. Puis, durant le temps de confinement, l'enseignement virtuel, ça a été un gros défi. C'était très limité, les apprentissages. Donc, j'ai la chance que ma fille, elle a déjà commencé l'école parce qu'il y a eu un programme de transition à son école. Donc, j'ai pu voir un peu comment ça se passait. Et ce que je me suis dit quand elle est arrivée, c'est qu'elle est bien protégée et elle est en sécurité. Donc, j'ai regardé un peu ce qui se passait autour. Les membres du personnel avaient toutes mis les mesures de sécurité en place. On parle d'équipement personnel individualisé. Ils ont minimisé les risques. On parle d'une auto-évaluation au quotidien avant d'aller à l'école. Un lavage de mains fréquent, autant chez les élèves que le personnel. Des bonnes mesures de désinfection, de la bonne ventilation, etc. Il y a aussi un processus de communication clair s'il y a quelqu'un qui développe des symptômes dans la classe de ma fille. Une autre chose que j'ai regardé, ce que je sais, c'est que les enfants se semblent être moins affectés par la COVID. Et encore une fois, je vais laisser les experts médicaux élaborer un peu là-dessus. Donc, j'ai juste choisi de pas aller passer avec mon côté émotionnel, puis me poser les questions, qu'est-ce qui arrive si ou j'ai peur. J'essaie de pas être anxieuse parce que je veux pas que ça se reflète sur ma fille. Ma fille le sent quand je suis anxieuse, puis je veux lui montrer que l'école, c'est un bon environnement, puis elle est en sécurité. Donc, dans mon cas, les avantages étaient plus nombreux. Je vous invite à regarder, il y a un document qui a été fait par SickKids sur la réouverture des écoles, daté du 29 juillet, donc un très bon document. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. On est tous dans le même bateau, puis on fait de notre mieux et on est ici ce soir pour faire les bonnes décisions. Merci beaucoup.
Alors, merci à toi, Yara. Je demanderai au docteur Nathalie Major, qui est avec nous ce soir, de bien vouloir commenter sur la deuxième composante. C'est comment décider si je peux envoyer mon enfant à l'école, l'enfant qui a des besoins médicaux complexes. Alors, docteur Major? On ne vous entend pas, docteur Major.
Est-ce qu'on m'entend maintenant?
Oui, c'est bon.
Merci, désolée. Alors, je vous remercie de l'introduction et bonsoir à tous. Je suis un pédiatre de l'hôpital de Chio et puis je travaille avec l'équipe de soins complexes. Et puis, les enfants auxquels avec qui nous travaillons sont vraiment un groupe très particulier, mais j'aimerais ça m'assurer de répondre à la question de façon plus générale parce que je crois que cette question touche à plusieurs enfants qui ont des conditions, je vais noter des maladies chroniques. Puis, je pense qu'est-ce qui est important aussi, c'est d'identifier qu'ils ont des besoins particuliers tout autant auprès de leur santé, puis qui ont des besoins au niveau scolaire, du support qui est différent comparativement à d'autres, tels que d'avoir des soins infirmiers, parfois une visite d'intervenants comme un ergothérapeute, physiothérapeute, et aussi des enfants qui ont des conditions comme l'autisme, des difficultés avec les comportements parfois, ou une adaptation en comportement, ou des besoins d'apprentissage particuliers tels que pour Louis, etc. Alors, j'aimerais vraiment englober ce groupe d'enfants. Et puis, la décision pour aider nos familles si leur enfant devrait poursuivre l'école doit être vraiment individualisée. Je dois avouer que Yara a donné une très bonne réponse à ce sujet, où est-ce qu'elle a identifié plusieurs aspects que les familles devraient poursuivre à considérer. Alors, c'est certain qu'il y a l'aspect santé de l'enfant. Si la famille a des questions auprès des risques, et je crois que beaucoup de familles sont soucieuses si leur enfant est à risque de développer une condition plus sévère, peut-être qu'il est important de discuter avec leur spécialiste ou leur intervenant à ce propos-là. Mais en général, ce que l'on sait, c'est que les enfants qui sont affectés par le COVID, en général, passent à travers cette condition-là comme à avoir un rhume. Il est évident qu'il y a beaucoup d'informations qui évoluent, que nos enfants qui ont des problèmes de santé un peu plus à risque. Peut-être les choses vont évoluer différemment, mais pour ce que l'on sait en ce moment, la littérature et l'information qui nous est disponible, ces enfants-là passent à travers le COVID de façon se remettre en général de cette condition-là. Pour poursuivre auprès de votre intervenant, il y a un document qui est disponible au CHIO pour les professionnels, pour les aider à diriger qui est plus à risque que d'autres. Et puis, on a un système là de gradation à très haut risque, à risque modéré, et selon le même que le reste de la population, puis ça les aide à diriger la réponse au niveau du risque et si l'enfant doit poursuivre l'école. L'autre aspect qui est important, c'est de regarder le besoin social, les difficultés d'adaptation qui ont résulté suite à l'isolement. Alors, il est très important de regarder à qu'est-ce qui est arrivé à votre enfant quand on a fait toute cette approche où est-ce qu'on a utilisé une approche d'isolement. Il faut aussi regarder à l'impact sur la famille quand on garde un enfant à la maison et à nos autres, à leurs frères et sœurs. Puis, il y a des ressources qui sont disponibles pour vous aider avec cette décision-là. Yara a déjà mentionné le document avec l'hôpital de Toronto SickKids qui donne un tableau avec les pour et les contre de chacune des décisions. Puis, je pense que c'est important aussi de discuter avec vos intervenants en communauté et à l'école pour justement bien comprendre quelles sont les mesures qui sont entreprises à l'école, puis comment qu'ils vont mettre en place les choses pour maintenir les mesures qui nous sont données par Santé publique et puis les différentes équipes qui donnent des directives pour protéger nos enfants. Alors, c'est bien important de prendre tous ces points-là en considération, puis au bout de la ligne, c'est vraiment une décision individuelle pour chaque enfant, puis de bien la prendre avec les différents intervenants, autant du côté scolaire, public, votre équipe de soins et puis en famille.
Merci, Nathalie. Alors, je passe à la prochaine question. Je reconnais qu'il y en a plusieurs, là. Alors, on va passer à la prochaine. Que faire si mon enfant, un frère ou une sœur ou un autre membre de la parenté est immunocompromis? Comment peut-on le ou la maintenir en sécurité? Alors, pour répondre à la question, je demanderai au Dr. Anne-Pham Hui du CHIO de nous répondre.
Bonsoir, est-ce que vous pouvez m'entendre?
Oui, merci.
Oui, donc merci encore pour l'opportunité de partager et de discuter avec vous. Je suis une des spécialistes en maladies infectieuses pédiatriques au CHIO, ainsi que spécialiste en déficit immunitaire. Attendez juste 2 secondes, j'ai une petite affaire à la maison. Je reviens.
Alors, si vous voulez, on peut passer à la prochaine question, puis on reviendra au docteur Hui dans 2 secondes. Alors, la prochaine question. Nombre d'entre vous se posent des questions sur l'obtention de l'aide médicale ou de l'aide d'exemption spécifique aux besoins de votre enfant. Alors, je demanderai au docteur Julineau de nous répondre à la question. Docteur No est une pédiatre communautaire.
Bonjour, vous m'entendez?
Oui, merci.
Oui, merci. Merci à tous pour cette rencontre très importante. Comme vous avez dit, je suis une pédiatre qui travaille à Montfort dans la communauté. Puis je travaille aussi avec les soins complexes en collaboration avec CHIO. Alors, en ce qui a trait pour les formulaires médicaux, qu'est-ce qui existait avant le COVID, dans tous les formulaires tels que les demandes de médicaments à l'école, les thérapies nécessaires à l'école, les besoins spéciaux médicaux, tous ces formulaires-là ou les demandes de l'aide médicale, ça ne va pas changer. Votre médecin est disponible pour compléter ces formulaires. En ce qui a trait au nouveau formulaire relié au COVID, donc des formulaires d'exemption pour le port du masque ou d'autres exemptions, je pense qu'il reste encore du travail à faire pour figurer le processus. Donc, pour qui, pour quelles raisons, comment, quel formulaire, et c'est complété par qui. C'est peut-être pas réaliste que chacune de ces exemptions-là soit remplie par le médecin de famille ou le pédiatre de l'enfant. Donc, on attend encore de voir les recommandations ou les protocoles plus officiel, soit de santé publique, de notre organisation médicale avec OMA ou des conseils scolaires. Mais c'est certain que c'est pas toujours noir et blanc, les recommandations. Donc, pour les enfants avec des besoins médicaux complexes, votre médecin, il vous connaît bien, il connaît bien votre enfant, votre famille. Vous pouvez toujours demander pour une visite virtuelle avec votre médecin pour discuter de ceci.
Alors, merci beaucoup. Je vais revenir un peu juste pour voir si le docteur Hui est disponible. Sinon, on va passer à la prochaine question. On va l'attendre. C'est la réalité du monde.
Oui, allô, je suis...
Bon, il n'y a pas de problème, on comprend.
Un petit déboulage d'un enfant, ben, un petit dégât de lait. Excusez.
J'espère que ça va bien.
Bon, alors, voilà. Je disais justement que c'est ça, je travaille au CHIO et je m'occupe surtout des enfants avec des déficits immunitaires, donc une population d'enfants immunosupprimés. Et cette question, c'est une question qui est posée tout le temps, même avant la pandémie, pour nos familles qui vivent avec un enfant ou un membre de la famille qui est immunocompromis. Donc, en termes de comment maintenir la sécurité des membres de la famille, la réponse, c'est qu'il y a en fait plusieurs méthodes pour prévenir la transmission d'infections ou de prévenir des infections. Et cumulativement, si on additionne différentes méthodes pour prévenir les infections, ça aide à diminuer le risque de transmission, mais ce risque ne va jamais être zéro. Et pour nos familles qui ont vécu ça même avant la pandémie, l'école a toujours été un risque, mais un risque calculé. En général, ce qu'on dit, c'est que les enfants qui étaient allés à l'école avant la pandémie devraient pouvoir retourner à l'école. Chaque situation est un peu individualisée, mais ça va de même pour les frères et sœurs ou fratries des enfants immunosupprimés. Mais en général, le message, c'est de toujours être vigilant. Et il y a d'autres méthodes pratico-pratiques que les familles pourraient mettre en place aussi. Donc, une routine de lavage de mains. Ça, c'est, vous pouvez reconnaître les familles qui, même avant la pandémie, se promenaient avec du Purel ou des liquides hydroalcooliques. C'est certain que la distanciation, toutes les méthodes que la santé publique répète encore et encore, c'est des méthodes qui fonctionnent. Garder les endroits à la maison de façon désinfectée, être vigilant avec les symptômes, de limiter les contacts. Alors ça, c'est toutes des méthodes que les familles pourront faire aussi avec le retour à l'école. Pour certaines familles, on a même dit que pour les enfants immunocompromis, c'est peut-être en fait le temps le plus... Les écoles ont été... Ou le temps le plus sécuritaire d'aller à l'école, dans le sens que jamais les écoles ont été nettoyées si désinfectées qu'avant. Donc ça, c'est une différente perspective, si vous voulez. Et donc, en général, encore, c'est vigilant, d'être au courant des différentes méthodes de prévention et de les appliquer, de se pratiquer en famille. Mais j'aime bien les réponses de Mme Niara et puis Dr Major aussi, que chaque famille a ses considérations uniques et d'essayer de s'asseoir puis de vraiment identifier les facteurs à risque ou les facteurs bénéfiques de l'école ou d'une situation à l'autre, et aussi ça va changer au courant des prochaines semaines, des prochains mois aussi, de pouvoir être flexible et s'adapter aux circonstances. Et puis ça dépend aussi évidemment de la transmission en communauté. Donc, j'espère que ça répond un petit peu à la question.
Oui, oui, merci.
Je vais aller nettoyer mon décor.
Okay. Bon, bonne chance.
Merci.
Alors, on passe à la prochaine question. C'est une question encore à quelques composantes. Alors, les enfants qui ont des besoins spéciaux, des besoins médicaux complexes, peuvent présenter des différences qui, à la base, peuvent être prises pour des symptômes de COVID. Alors, qui détermine quand les symptômes deviennent préoccupants? Et pour répondre à la question, je vais d'abord demander au Dr Nathalie Major d'y répondre. Ensuite, je vais demander à José Filiatro du CEPEO et à Marie-France Paquette du CECCE d'y répondre. En fait, je pense que ce n'est pas Marie-France Paquette qui va répondre, ça va être Isabelle Lachaine. Alors, Dr Major?
D'accord, merci. Alors, les enfants, parfois, ont des symptômes. Je vais donner un exemple, comme un écoulement nasal à cause d'un problème avec du reflux, qui est quelque chose qui est bien identifié chez l'enfant. Ça devient difficile si l'enfant... disons, rentrait dans une nouvelle école, il n'était pas connu. Et puis, si on fait une évaluation de dépistage pour s'assurer que tout le monde est en santé, ça pourrait être parfois difficile pour cet enfant-là parce que les gens vont questionner comment ça se fait qu'il y a un écoulement nasal, il pourrait y avoir un rhume. Dans ces situations-là, ce qui est important, c'est de discuter avec l'école, avec leurs intervenants. Souvent, il y a des intervenants du LIN ou d'autres membres qui sont dans le cercle des soins de cet enfant-là, qui peuvent identifier que ça, c'est la base, c'est bien connu de cet enfant-là et ça ne représente pas des nouveaux symptômes. Les parents reconnaissent très, très bien les symptômes de leur enfant aussi. Alors, c'est vraiment une habileté de communiquer ces symptômes-là à la base. Puis, si c'est nécessaire pour aider les intervenants à l'école ou dans le milieu de la communauté, l'intervenant, soit le spécialiste ou les enfants qui sont avec un pédiatre ou avec l'équipe complexe, peuvent toujours supporter une lettre pour l'école. Par contre, il faut qu'on reconnaisse que la présentation du COVID chez les enfants, ils peuvent être asymptomatiques ou avoir comme un rhume. Et c'est de toujours rester bien vigilant pour que s'il y a un changement chez l'enfant, c'est de respecter, de rester à la maison, puis de réévaluer la situation. Puis des fois, c'est un 24 heures, puis on identifie, ah, c'est les symptômes de base, mais parfois, on voit les choses évoluer différemment. Puis aussi de regarder quels ont été les contacts et comment les autres à la maison se sentent, et etc. Ça fait que c'est bien important de toujours prendre les différents aspects des manifestations chez l'enfant, puis de parler avec son équipe qui inclut l'école, qui inclut une équipe avec les services communautaires, puis l'équipe que l'enfant est avec auprès de pour les soins qu'il nécessite.
Merci, Dr. Major. Est-ce que je pourrais demander à soit José Filiatro du CEPO ou Isabelle Lachaine du CECCE de commenter?
Oui, je pourrais commenter. C'est José Filiatro du CEPO. Bonsoir tout le monde. Donc, au CPO, on demande à tous les parents, avant l'arrivée le matin à l'école, de remplir le formulaire d'auto-évaluation qui est disponible sur le site du gouvernement de l'Ontario. Donc, on remet la responsabilité aux parents qui sont les premiers, qui connaissent le mieux leur enfant, de faire l'auto-évaluation puis de déterminer si les symptômes sont habituels ou bien sont un peu comme le docteur vient de le dire, diffèrent un peu de ce que l'élève a comme symptômes habituellement. Donc, je ne sais pas si ma collègue veut ajouter quelque chose.
Non, de notre côté, au CSICE, c'est la même chose. Donc, on demande aux parents de faire l'auto-évaluation de son enfant, de ses besoins, et puis d'informer l'école s'il a des symptômes inhabituels.
Alors, merci beaucoup. Je vais juste faire une petite vérification du temps. Il est déjà 7 heures. Il nous reste 15 minutes pour passer à travers de nos questions déjà formulées. Alors, je vais, pour les gens du panel, je vais sauter à une autre question plus bas dans la série. Mais si on a le temps, je vais revenir aux questions qu'on n'a pas répondu. Alors, le prochain thème, c'est l'atténuation des risques. Alors, les mesures de prévention et contrôle des infections dans les écoles. Alors, la prochaine question, c'est l'entrée et les sorties. Est-ce que les élèves entreront-ils et sortiront-ils de l'école par des portes désignées à cet effet? Alors, je demanderai encore à José Filiatro et Isabelle Lachaine s'ils peuvent bien répondre à cette question.
Oui, je vais y aller brièvement. J'inviterais peut-être les parents à consulter le site du conseil scolaire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur toutes les questions qui avaient été posées sur le site au niveau du retour à l'école. Donc, sur le site du retour à l'école, il y a vraiment une section du fonctionnement et dans cette section-là, tout est décrit au niveau de comment ça va se passer dans les écoles avec l'arrivée et le départ des élèves. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, l'entrée va être prévue à un endroit dans l'école et la sortie va être prévue. La distanciation physique pendant l'entrée va être respectée. Des choses comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de détails sur le site Internet. Donc, je vous invite à consulter le site Internet là, si vous voulez avoir plus de détails.
C'est un peu la même chose pour le CECCE. Puis j'ajouterais aussi que lorsque ce sera possible, donc dans la mesure du possible, il y a des portes qui sont désignées pour les enfants qui ont des besoins médicaux complexes, puis pourront emprunter ces portes-là à l'entrée et à la sortie pour éviter des contacts avec les autres élèves.
Merci. Plusieurs questions aussi sur la formation que le personnel scolaire recevra sur les mesures de prévention et de contrôle des infections, ainsi que les protocoles de nettoyage dans les écoles. Est-ce que je pourrais demander encore à José et à Isabelle de commenter, s'il vous plaît?
José? Donc, au niveau de la formation, il y a 3 journées pédagogiques qui viennent de se terminer et tous les membres du personnel du conseil scolaire, autant au siège social et dans les écoles, avaient des formations en ligne à compléter. Au niveau de mesures de santé et sécurité qu'on devait mettre en place pour le COVID-19 et au niveau, y compris le matériel de protection individuelle. Donc, ça, c'est pour la formation. Tout le monde a terminé sa formation. Au niveau du nettoyage, toutes nos écoles ont mis en place des protocoles de nettoyage et des mesures d'hygiène encore une fois, c'est très bien décrit sur le site Internet. Le nettoyage des espaces va avoir lieu de façon accrue, surtout sur les surfaces qui sont touchées vraiment fréquemment. Donc, ça va être nettoyé, désinfecté au moins 2 fois par jour, sinon plus fréquemment, comme suggéré par Santé publique.
Merci. Isabelle?
Oui, donc nous avons aussi un site web avec un guide de retour complet pour les parents. On parle du avant l'arrivée des élèves, pendant que les élèves sont dans les écoles et lors de leur sortie, donc après le départ des élèves. Donc encore une fois, nous aussi des mesures de nettoyage qui sont mises en place 2 fois par jour, qui sont mises en place aussi pendant la journée au sein des salles de classe. Donc, encore une fois, là, on suit les lignes directives du bureau santé, des bureaux de santé publique.
Merci. Est-ce que je pourrais demander encore à José et à Isabelle de commenter un peu sur le port des masques à l'école, la procédure à suivre? Alors, je vois qu'il est déjà 7h06. Alors, si on peut garder nos réponses assez courtes pour qu'on soit capable de passer à plus de questions possibles. Merci. José?
Excusez, j'avais oublié d'ouvrir mon micro.
Non, pas de problème. Désolée.
Donc, tous les élèves de la 4e à la 12e année au CPO doivent porter le masque. Pour les élèves qui ont des conditions médicales et qui nécessitent des exemptions, on demande aux parents de s'adresser à la direction d'école. À ce moment-là, c'est possible d'avoir des exemptions. Pour les élèves qui ne sont pas dans la possibilité de porter le masque. Et au niveau, je dirais, parce qu'il y avait une composante d'anxiété à cette question-là. Donc, si certains élèves sont anxieux, il y a des ressources qui sont offertes au personnel pour appuyer les enfants et il y a des ressources qui sont offertes aux parents. Il y a plusieurs choses qui sont déjà mises sur le site Internet du Conseil.
Merci. Alors, Madame Lachaine?
Oui, donc du côté du CECCE, donc depuis plusieurs semaines, le conseil travaille de pair avec les parents afin que celui-ci pratique le port du masque avec son enfant à la maison. Toutefois, nous sommes très conscients que certains élèves ne pourront pas porter le masque, puis on demande aux parents de s'adresser à la direction à ce moment-là si ce n'est pas possible. Nous avons aussi mis en place un accompagnement pour les équipes écoles afin de sensibiliser les élèves qui entourent l'élève qui ne peut pas porter de masque pour éviter tout ce qui pourrait devenir des préjugés ou ainsi de suite.
D'accord, merci. Alors, je vais passer à la question, comment les conseils scolaires, les parents en santé comment les conseils scolaires, les parents et santé publique vont-ils collaborer pour déterminer si les symptômes de mon enfant sont préoccupants? Je me rends compte qu'il y a 4 personnes de désignées pour répondre à la question. Il y a José Filiatro, Isabelle Lachaine, Nathalie Lair et Yara Saïkali. Je vais commencer avec Nathalie Lair de Santé publique.
Merci. Donc, nous allons travailler ensemble avec les conseils de façon régulière pour offrir des outils, pour faciliter. Donc, on va commencer, comme ça l'a déjà été dit auparavant, on va encourager beaucoup l'auto-évaluation des symptômes, puis c'est axé sur l'emphase des nouveaux symptômes ou ceux qui s'aggravent. Donc, pour les enfants qui ont déjà des symptômes, c'est l'outil de dépistage, c'est pour figurer si c'est nouveau. Donc, c'est pas Santé publique qui veut décider quels symptômes qui méritent un dépistage. C'est plutôt en consultation avec votre professionnel de la santé et en communication avec nous. Donc, c'est vraiment, on va travailler ensemble pour décider si l'enfant a besoin d'un dépistage. Puis nous autres, on va aussi, notre rôle aussi, c'est d'aider les écoles à défricher les directives de la province que nous suivons. Mais je vais juste m'axer sur nous autres, notre rôle, c'est vraiment au niveau de soutenir les écoles lorsqu'il y aura un résultat positif et de prévenir les plus d'éclosions possibles. Mais on va travailler ensemble avec tout le monde pour aider, pour donner les meilleures réponses. Puis souvent, ça va être cas par cas avec les enfants qui ont des soins complexes.
D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des commentaires supplémentaires, soit par Yara, José ou Isabelle?
Moi, j'aimerais ajouter un commentaire. Donc, le plan de soins de santé va permettre aussi de déterminer si les symptômes sont nouveaux et deviennent préoccupants à ce moment-ci. L'équipe école pourrait communiquer ou devra communiquer avec le parent le plus rapidement possible. Si je peux me permettre un commentaire, juste vous informer que Marie-France Paquette aurait aimé participer. Toutefois, elle éprouve des problèmes techniques à ce moment-ci.
D'accord, merci. Alors, si vous me permettez, il nous reste deux thèmes. Il y a plusieurs questions. J'ai manqué une question au niveau de l'atténuation des risques, mais si on a le temps, on va y revenir. Alors, je pense tout de suite au soutien des enfants à domicile. Alors, la première question, de nombreux parents ont demandé quelle aide à l'apprentissage seront disponibles pour les élèves à domicile, y compris quel accès ils auront à l'aide enseignante. Alors, je demanderai à Josée Filiatro du CEPEO si elle voulait bien commenter.
Oui, donc au CEPEO, on a le programme d'apprentissage virtuel pour les écoles. Donc, les élèves qui sont à domicile peuvent bénéficier de ce programme d'apprentissage-là. Et le personnel enseignant qui est attitré au programme va être disponible pendant toute la journée scolaire pour appuyer puis encadrer les élèves. Évidemment, sauf pendant les pauses et le dîner, mais ça va être l'appui va se faire par des enseignants qualifiés qui vont être attitrés aux élèves qui sont à la maison.
D'accord, merci. Alors, la prochaine question, quels services de thérapie seront disponibles dans les écoles? Et seront-ils disponibles pour les enfants qui apprennent de la maison? Alors, la question est dirigée à Jessica Wilson du CHIO. Mais la prochaine question suivante est aussi dirigée à Jessica. Alors, Jessica, si tu veux bien répondre aussi brièvement sur quels services infirmiers seront disponibles dans les écoles et quels sont les plans de soutien pour les enfants qui ont une trachéotomie, un système de suction ou des besoins de ventilation dans la salle de classe. Jessica?
Oui, parfait. Merci, Lise. Premièrement, je vais me présenter. Je suis Jessica Wilson, gestionnaire avec CHIO pour le programme de services de réadaptation en milieu scolaire. Et je représente aussi le ARLIS comme gestionnaire pour l'équipe pédiatrique qui inclut les services de santé en milieu scolaire ainsi que les infirmiers en santé mentale et en toxicomanie. Et donc, par rapport à la première question, c'est maintenant CHIO qui a la responsabilité pour les thérapies en milieu scolaire et que depuis la fermeture des écoles au printemps, CHIO a offert les thérapies comme soins virtuels. Et donc, CHIO va continuer à offrir ces services virtuels à toutes les familles qui choisissent l'apprentissage à distance, l'orthothérapie, la physiothérapie et l'orthophonie des services de réadaptation en milieu scolaire de CHIO seront également disponibles pour ceux qui choisissent l'apprentissage en personne. Nous prévoyons aussi d'avoir des nouvelles ressources en ligne pour les familles. Et pour la deuxième question, les services de soins infirmiers du ARLIS seront toujours disponibles cette année scolaire. Ceci inclut les soins pour les élèves avec trachéotomie ou qui ont besoin de la ventilation ou de la suction. On liaise fortement avec Santé publique Ottawa et CHIO pour assurer que nos mesures et procédures suivent la direction nécessaire pour minimiser le risque et pour assurer la sécurité des élèves, des écoles, du personnel et des infirmières.
Alors, merci beaucoup, Jessica. J'apprécie. C'est des réponses très succinctes. Merci beaucoup. Alors, question de santé mentale et soutien, c'est notre dernier thème avant que je revienne à la dernière question que j'ai manquée. Alors, la question est dirigée au docteur Marie-Claude Gagnon, qui est un médecin de famille. Qu'est-ce que les parents peuvent faire pour aider les enfants à minimiser l'impact sur la santé mentale et les compétences après être restés si longtemps à la maison? Alors, docteur Gagnon, est-ce que nous avons docteur Gagnon?
Oui, ok, je suis désolée, c'est parce que je réussissais pas à enlever la fonction mute. Ok, oui, effectivement, faut pas se leurrer, là. Le retour à l'école, ça va être difficile, ça va être stressant pour la plupart des enfants et leurs familles. Ça va bientôt faire 6 mois que les enfants n'auront pas été à l'école. Donc, le retour va être un changement important là, par rapport à la routine des derniers mois. Les enfants sont souvent sensibles à l'anxiété que vivent leurs proches, dépendent de leurs parents pour les aider à gérer leurs propres sentiments. Et ça va vraiment être important que même si, en tant que parent, qu'on est un peu anxieux et stressé, c'est important de demeurer le plus calme possible devant les enfants pour éviter de transmettre là, notre stress. Je pense que ça va vraiment c'est important d'éviter là, d'écouter ou de regarder les reportages sur la pandémie quand on est avec les enfants. Puis il faut aussi éviter d'avoir des conversations entre adultes à propos de nos inquiétudes devant eux. Si il y a beaucoup de gens qui ont commencé des nouvelles activités en famille pour aider à gérer le stress pendant la pandémie. Je pense que ça serait une bonne idée là, de les incorporer à la nouvelle routine suite au retour à l'école. C'est important de rassurer votre enfant, lui disant régulièrement qu'il ou elle est en sécurité, de dire qu'en se lavant régulièrement les mains, qu'en portant le masque pour les enfants qui en sont capables, là, qu'en faisant tout ça, qu'il aide lui-même et tout le monde. Je pense que c'est aussi important d'avoir une bonne communication avec les professeurs, puis tous les intervenants, d'avoir un plan d'action en place. Si vous voulez avoir plus d'informations, le site web de CHIO est très bien. Puis un autre que je ne pense pas qui est mentionné là, sur le site qu'on voit, c'est celui de santé mentale en milieu scolaire Ontario. C'est disponible en français et en anglais. Il y a une section pour parents là, avec vraiment des bonnes suggestions.
Alors, merci, Dr. Gagnon. Il nous reste deux questions, mais je vais passer maintenant, étant donné l'heure, il est déjà 7h16, je vais passer aux questions qui nous ont été posées par clavardage, chat en anglais. Et les questions qui n'ont pas été répondues, on va essayer de voir s'il y a une autre façon de vous avoir les réponses. Alors, il y avait une question au niveau du transport scolaire et une autre question encore qui portait sur la santé mentale. Alors, je passe tout de suite à la question qui nous a été posée ce soir. Est-ce qu'une personne infectée par la COVID est contagieuse du jour 1 au jour 14? Et est-ce que le CHIO a la capacité de tester tous les élèves qui retournent à l'école? On parle de milliers de tests par jour. Est-il réaliste d'envoyer un enfant qui a simplement le nez qui coule se faire tester afin qu'il puisse réintégrer l'école? Alors, pour cette question, je demanderai au Dr. Tampi si elle voudrait bien répondre. Dr. Tampi?
Allô, je m'excuse, mais je t'ai interrompu. C'est quelle question?
Oui, alors, la question encore, est-ce qu'une personne infectée par la COVID est contagieuse du jour 1 au jour 14? Est-ce que le CHIO a la capacité de tester tous les élèves qui retournent à l'école? On parle de milliers de tests par jour. Est-il réaliste d'envoyer un enfant qui a simplement le nez qui coule pour le faire tester?
Je pense que la dernière question, ça peut être... Je vais demander à la santé publique d'adresser pour à propos des tests. CHIO, en fait, on recommande que les enfants qui ont des symptômes non sévères, qui ont besoin seulement de faire un test, qu'ils vont à un de nos sites dépistage. La première question, oui, on dit que la personne est contagieuse jusqu'à journée 14. La plupart, ce qu'on sache avec ce virus, c'est que le temps où on voit la plupart des infections, c'est les premiers 5 à 7 jours. Mais on a vu déjà, surtout parmi les gens qui étaient jeunes, immunocompromisés et aussi... les personnes âgées, que ça pourrait être étendu jusqu'à 14 jours. Alors, c'est ça la recommandation.
D'accord, merci. Je vais passer à Nathalie Laird de Santé publique, mais je vais poser la deuxième question parce que je pense qu'elle serait la meilleure personne en mesure d'y répondre. Alors, COVID-19, gouttelettes grosses dans moins de 2 mètres, d'accord, mais qu'en est-il alors des aérosols? Alors, les fines gouttelettes en suspension prolongées, les gouttelettes répandues partout à grande portée et les mesures de protection pour nos enfants ou nos élèves pendant 7 heures par jour, 5 jours, semaine. Alors, Nathalie?
Oui, je m'excuse, question? Je suis en train de relire la question. Je ne suis pas certaine. Excuse, je suis juste en train de la relire. Mm-hmm. Donc, je sais que nous autres, qu'est-ce qu'on fait, puis chaque conseil, c'est qu'on suit les guides donnés par la province pour quel masque porter. Et puis, nous avons une équipe qui font l'évaluation dépendant des procédures qui se font. Donc, quotidiennement, les profs sont recommandés de porter un masque médical. Et s'ils sont pas capables de maintenir le 2 mètres, ils vont porter un visière ou des lunettes protecteurs. La deuxième partie, puis on recommande si le masque devient humide, de changer le masque pour avoir. Puis c'est pour ça qu'on encourage tous les profs et tous les élèves d'avoir plusieurs masques à leur portée. Et puis j'essaie de juste finir à lire la question, excusez. Donc, ça dépend de la procédure que vous faites avec l'élève, quel masque vous allez porter. Et puis, on dit de changer les masques quand vous êtes capable. Je suis d'accord que le même masque pendant tout ce temps-là n'est pas recommandé. Je ne suis pas certaine si j'ai répondu à la question comme vous vouliez. Vous pouvez poser une autre question si ça ne fonctionne pas.
D'accord. Alors, je vais passer à l'autre. Si on ajoute les conditions pulmonaires plus vulnérables pour lesquelles le COVID-19 constitue un risque précurseur de crise d'asthme additionnelle, quelles sont les procédures? Je pense qu'il me manque une partie de la question. Je vais remonter.
Donc, j'ai juste vu, excusez, que c'était écrit que ça ne répond pas à ma question complète. Je ne suis pas certaine si c'était pour ma réponse. Je dois juste aviser que nous autres, on suit les directives qui viennent de la province quand ça vient au masque, quel genre de masque les profs portent. Ce n'est pas nécessairement Santé publique Ottawa, c'est vraiment au niveau de la province.
D'accord. Je vais passer à la question 5. La question avant. Est-ce possible d'avoir une réponse du CCE concernant l'accès au support en ligne à la maison?
Oui, certainement. Donc, le CCE a son académie d'apprentissage virtuel. On va accueillir au-delà de 3000 élèves sous peu, entre autres des élèves à besoins multiples. Puis les éducateurs ou les éducatrices à la salle de classe vont pouvoir accompagner les élèves dans leurs apprentissages.
D'accord, merci. Prochaine question. Au-delà de la contagion COVID-19 dite inévitable à l'école, donc classes nombreuses, plus de 15, moins de 2 mètres minimum requis, que pensez-vous des dommages permanents aux multiples organes du corps humain et comment prévenir ceux-ci? Alors, je demanderai soit à Dr Major, ou une de ses collègues d'y répondre, si possible. Merci.
Okay. Oui, bonjour. Je suis désolée, je relis la question aussi. Que pensez-vous des dommages? Je peux tenter de répondre une partie de la question. Pour ce qui est de la condition de COVID-19 chez les enfants en général, ce que l'on sait jusqu'à maintenant, les enfants ont soit aucun symptôme ou un rhume, fièvre, mal de gorge. Il y a un petit pourcentage d'enfants qui sera hospitalisé. Pour ce qui est des enfants qui ont des conditions plus à risque, parfois, il y a eu des hospitalisations, mais ces enfants-là se remettent en majorité de la condition. Quand on regarde à qu'est-ce qui se passe du côté adulte et l'évolution d'une condition vraiment plus multisystème, plus sévère, on ne semble pas voir vraiment chez les enfants le développement de l'évolution de cette maladie au même degré. C'est certain qu'il y a eu des enfants qui ont été affectés plus sévèrement, mais c'est vraiment plus rare que qu'est-ce qu'on voit chez du côté adulte. Il y a aussi une condition que l'on reconnaît qui s'appelle une condition multisystème inflammatoire pour lequel qui peut affecter plusieurs systèmes. Mais on a aussi un traitement pour cette condition-là quand c'est reconnu et puis qui a une bonne récupération aussi suite au traitement.
Merci, Dr. Major. Je passe à la prochaine question. Les masques sont seulement pour les grosses gouttelettes à moins de 2 mètres, pas pour les aérosols. Alors, je ne sais pas qui serait en mesure de mieux répondre à la question. Il nous reste 4 minutes. Alors, santé, c'est peut-être la question pour Santé publique. Nathalie, je ne sais pas si tu veux tenter d'y répondre.
Bonjour, c'est la question de François. Donc, je l'ai relue par en haut. Donc, je me demandais si c'est plutôt quand on donne des soins aérosols ou ce qui parle que les gouttes qui restent en aérosol. Donc, les masques ont été recommandés basés sur la science qu'on a présentement avec le COVID-19. On dit que même les malades... Est-ce que je lis la question encore? Il rajoute à sa question. OK, donc ça change de question. Donc, qu'est-ce qui soit pour les grosses gouttelettes à moins de 2 mètres? Donc, c'est pour ça que quand on est à moins de 2 mètres, on recommande la visière au-dessus du masque parce que c'est vrai que c'est pas assez de protection. Donc, c'est pour ça qu'une fois qu'on est, on minimise le 2 mètres, le masque n'est pas assez. C'est pour ça qu'on avise de mettre une visière. Puis la deuxième question, la deuxième partie, je peux pas la répondre pour le dommage des organes.
Alors, il nous reste 3 minutes. Je me demande si Dr. Major peut commenter brièvement sur la dernière section de la question, étant donné que c'est relié peut-être à une des questions précédentes.
Est-ce que c'est possible de m'orienter quelle partie?
Oui, le dommage aux organes du corps humain. Je trouve... je pense qu'on est correct. J'ai plus accès à mon clavardage. Alors, on dit que même quand les malades du COVID guérissent, il y a quand même des dommages. Ça, vous l'avez adressé. Alors, le dernier commentaire, on va manquer de temps pour répondre aux questions, là. Il n'y a aucune protection contre les aérosols avec de simples masques, n'est-ce pas? Et c'était une question encore reliée aux masques. Alors, Nathalie, je ne sais pas si tu voulais conclure. Pas Nathalie, excuse.
Non, je trouve... C'est Dr. Tamou ici. Je peux peut-être juste mentionner une parole. C'est des questions qui sont difficiles parce que, et puis souvent, on n'a pas de réponse exacte, mais je rappelle souvent à nos familles de juste se baser sur les principes généraux. Donc, cette infection, elle est principalement, mais vraiment principalement transmise par des grosses gouttelettes respiratoires avec peu de distance. Donc, en général, avec des contacts assez étroits. Si on commence à aller vers les scénarios qui sont hypothétiques, il y a toujours des possibilités théoriques et puis on y adresse dans certaines situations. Mais pour le quotidien à l'école, la majorité des infections vont principalement se transmettre par encore un contact étroit avec entre élèves ou avec les professeurs ou le personnel qui sont en général, c'est toujours plus facile ou plus efficace de transmettre une infection quand on est symptomatique. Donc, imaginez que c'est le virus dans les gouttelettes. Si on tousse, si on éternue, ça va aller plus loin versus quelqu'un qui est asymptomatique et simplement en train de parler. Donc, c'est toujours possible. Et puis, c'est des bonnes questions, mais c'est des questions difficiles à répondre. Mais encore, peut-être pour rassurer, si cette infection propagé par transmission avec des petites aérosols ou aériennes, c'est certain qu'on aurait une transmission différente. On verrait des comptes différents. Donc, c'est pour ça que les principes de laver les mains, distanciation, port de couvre-visage vont être vraiment les mesures clés pour travailler ensemble à diminuer la transmission dans nos écoles, pour le rendre le plus sécuritaire. Mais c'est certain que ça ne va être jamais un risque zéro. Puis ça va être un risque à évaluer de famille en famille selon les circonstances de chacun.
Alors, merci, Dr. Pham Huy. Alors, cela nous amène à la fin de la séance de l'Assemblée publique de ce soir. Et au nom de l'équipe Santé, les enfants avant tout, je tiens à remercier tout le monde pour votre participation à cet important dialogue. Nous savons que le milieu scolaire est essentiel à la santé des élèves, y compris à la santé mentale et au bien-être. Alors, la communication, le partenariat entre parents, l'équipe école et l'équipe santé est primordial. Alors, pour les enfants ayant des besoins de soins spécialisés, chaque situation est unique. Comme on l'a entendu, il n'y a pas de solution parfaite. Et notre objectif est de fournir des conseils pour prioriser la sécurité des élèves et du personnel. Comme nous l'avons mentionné précédemment ou à l'ouverture, on vous encourage à continuer de vous référer, examiner les dernières mises à jour et les renseignements qui vous sont offerts par Santé publique Ottawa, par les conseils scolaires et les membres de l'équipe soignante de votre enfant. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup.